Ce podcast vous est présenté en partenariat avec Digital Wallonia for AI.
L'intelligence artificielle est partout autour de nous. Et dans votre entreprise ? C'est le moment de vous lancer. Exploitez le potentiel de l'IA et boostez votre entreprise. Avec Digital Wallonia, bénéficiez d'un soutien financier et d'une équipe d'experts à vos côtés. Inscrivez-vous dès maintenant sur digitalwallonia.be/IA.
Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. On poursuit notre focus sur l'intelligence artificielle, sur ses implications dans notre quotidien. Ce matin, on verra ce que l'IA peut amener au secteur de la santé. Mais d'abord, l'attentat de ce week-end dans une salle de concert près de Moscou a fait 137 morts. Il a été revendiqué par la branche afghane de l'État islamique. On va voir avec un expert ce qu'on sait de ce groupe terroriste. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
137 morts, 182 blessés à l'heure d'enregistrer ce podcast. Le bilan de l'attentat de samedi dans une salle de concert proche de Moscou est terrible. L'attaque la plus meurtrière sur le sol russe depuis une vingtaine d'années. La branche afghane de l'État islamique au Khorasan, a revendiqué l'attentat. Mais qui sont-ils ? Que disent les experts de ce groupe terroriste et pourquoi ont-ils visé la Russie ? Pour répondre à toutes ces questions, on a appelé Mohamed Fahmy, chercheur associé à l'OMAM, l'Observatoire des mondes arabes et musulmans de l'Université libre de Bruxelles.
Bonjour Mohamed Fahmy.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour nous éclairer sur cette actualité. La branche afghane de l'État islamique au Khorasan, a donc revendiqué cette attaque. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette branche ? C'est qui et ils sont établis où ?
La branche de l'État islamique au Khorasan. Khorasan, c'est ce terme médiéval qui désigne plus ou moins l'Afghanistan et certaines régions aux alentours. Aujourd'hui, son terrain d'activité, enfin son QG, se trouve principalement au nord-est de l'Afghanistan. C'est des provinces comme Nangarhar ou bien encore Kunar. C'est là où on trouve, on va dire, le QG de cette organisation qui, initialement, a commencé en 2014. Donc, ça fait 10 ans que cette structure existe. Au départ, c'était des dirigeants talibans, en fait, des chefs de tribu qui étaient affiliés aux talibans, qui sont déçus tout simplement par la répartition des richesses et du pouvoir et autres que les talibans leur avaient fournis, et qui ont décidé à un moment donné de prêter allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, l'ancien calife qui a proclamé le califat en Syrie et en Irak. Ils verront également l'arrivée de certains djihadistes transnationaux qui proviennent soit de l'Afghanistan, soit des pays frontaliers, qui ont participé en Syrie et en Irak aux guerres et qui vont rejoindre cette structure en Afghanistan.
C'est une branche active, connue des spécialistes comme vous. Ils avaient déjà fait parler d'eux avant, avec notamment des attentats meurtriers.
Oui, tout à fait. Ils ont, en fait, la première fois dont j'avais entendu parler d'eux, c'était surtout en 2015, parce qu'ils se sont distingués par des vidéos de décapitation assez gore. La particularité de ces vidéos-là, c'était qu'ils avaient mis des chefs talibans dedans. Ils ont fait exploser les têtes de ces chefs talibans dans une vidéo qui était assez médiatisée en 2015. C'était quelque chose d'inédit, parce qu'on avait l'habitude que ce soit des groupes islamistes afghans qui mettent en scène des décapitations de personnes affiliées aux Américains ou au gouvernement de Kaboul. Et là, on voit quoi ? Un groupe islamiste armé qui décapite la tête de d'autres dirigeants de groupes islamistes armés. Donc, c'était assez intéressant à voir à ce moment-là. Ensuite, on entendra parler d'eux beaucoup plus après le départ des États-Unis de l'Afghanistan en 2021. Et là, on observe véritablement que les États-Unis avaient une politique plus efficace que les talibans aujourd'hui, dans la mesure où les États-Unis avaient réussi à contenir l'expansion de cette organisation. Une fois que les Américains se soient retirés, on a vu que les talibans avaient réussi à mener beaucoup plus d'attentats sur le sol afghan, mais également dans les régions limitrophes. L'ambassade russe en 2022 est par exemple victime d'un attentat organisé par l'État islamique au Khorasan. C'est l'ambassade russe à Kaboul, elle est victime d'un attentat. Donc, ce n'est pas la première fois que l'État islamique au Khorasan s'en prend aux intérêts russes.
On sait justement quel objectif il vise cette fois-ci en s'attaquant à la Russie.
Alors pour cette fois, c'est un peu compliqué, je vous avoue, parce que j'ai analysé les deux communiqués qu'ils ont, ils ont publiés via leur agence de presse AMAC, agence de presse officielle. J'ai également visionné les deux vidéos qu'ils ont publiées, des vidéos très courtes. Hein, et le justificatif derrière ces attentats n'est pas très clair, dans la mesure où dans le premier communiqué, hein, l'argumentaire est assez générique. L'État islamique dit que cet attentat-là entre dans le cadre de la guerre naturelle qui existe entre l'État islamique et les ennemis de l'islam. Bon, c'est un argument qu'on peut retrouver dans d'autres contextes. Dans le deuxième communiqué, l'argument ici qui est mentionné, c'est la vengeance des moudjahidines envers les pays qui ont fait la guerre à l'État islamique. Le terme « vengeance », c'est assez intéressant. Parce qu'il vient renforcer l'idée que ce sont des personnes originaires de l'Asie centrale, ou en tout cas des personnes qui ont eu affaire à la Russie d'une manière ou d'une autre, soit dans leur pays d'origine, soit sur un terrain de bataille, et qui ont voulu se venger. Moi, je pense que c'est l'hypothèse la plus probable. Je pense que c'est de la proactivité de la part de certains membres de l'État islamique au Khorasan qui ont voulu se venger effectivement de la Russie, soit parce qu'ils ont souffert de la Russie dans leur pays d'origine, ou parce qu'ils ont été quelque part faire le djihad et ils ont vu les Russes qui de nouveau s'interposer entre eux et leur projet.
Vous l'avez évoqué, il y a quelques vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des vidéos terribles évidemment, comme toujours dans ce genre de situation. Si les terroristes les diffusent aussi largement, c'est aussi pour, passez-moi l'expression, mais faire passer un message, parce que c'est l'essence du terrorisme.
Tout à fait. Donc ici, en fait, on a plusieurs messages. En réalité, le premier, c'est faire peur aux Russes dans ce cas-ci, hein, parce que c'est des, comme vous l'avez dit, ce sont des vidéos assez difficiles à visionner. Un citoyen russe qui voit ces vidéos va avoir peur, hein, tout simplement. Donc, et ça, c'est un effet recherché par les terroristes. Le deuxième message qui est envoyé, s'il est envoyé au gouvernement russe, hein, c'est de dire. En gros, vous devez cesser vos activités contre nous. Sinon, vous allez avoir des attentats de nouveau. On est capable de le faire. Enfin, c'est ça que ça veut dire. On est capable de faire. Nous avons les moyens de vous atteindre, y compris dans votre capitale. Faites attention. Donc, ça, c'est l'autre message qui est envoyé par cette vidéo-là. Il y a un troisième message pour moi qu'on retrouve également. C'est un message à la communauté internationale. C'est de dire, regardez, nous existons toujours en tant qu'organisation.
J'allais justement vous poser la question. On a parfois eu l'impression que l'État islamique avait plus ou moins disparu avec la chute du califat en Irak et en Syrie. C'était une fausse impression. Il y a encore des branches un peu partout dans le monde actives.
Tout à fait, c'est une fausse impression parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand un observateur assidu aurait vu que l'État islamique est toujours en activité en Syrie et en Irak, c'est juste qu'effectivement, ils ont perdu leur territoire, ils ont perdu beaucoup de leurs capacités. Donc, effectivement, ils ne sont plus vraiment en mesure de frapper l'Europe de l'Ouest. Par contre, on voit que, donc, premièrement, qu'ils continuent à exister rudimentairement. Deuxièmement, c'est qu'il y a eu une renaissance de l'État islamique, d'abord au Sahel et en Afrique subsaharienne, où là, ils sont très, très actifs. Là, ce que vient de démontrer l'État islamique, c'est qu'ils sont aussi actifs dans une autre région, qui est ici l'Asie centrale et les pays limitrophes à la Russie.
Dernière petite chose, la France a décidé de relever son niveau d'alerte, la Belgique a maintenu le sien à 3. Il y a toujours une menace potentielle qui plane sur notre pays.
En ce qui concerne la Belgique, pour le moment, je n'ai pas reçu d'informations qui démontreraient qu'il y a une menace réelle en lien, en tout cas, avec ce groupe-là. En ce qui concerne la France, je pense que la France a ses raisons de craindre un attentat dans la mesure où la France fait attention au réseau tchétchène, qui sont bien implantés en France, mais qui également étaient derrière plusieurs attentats qui ont frappé la France, comme l'assassinat de Samuel Paty. C'était un Tchétchène qui a commis l'assassinat. Donc, en Belgique, nous n'avons pas connu d'attentat dont l'auteur était un Tchétchène. Donc, on n'a pas la même perception de ces filières-là. Une dernière chose, c'est que donc j'avais dit que ces filières sont bien implantées en France, même numériquement, les Tchétchènes radicaux sont beaucoup plus faiblement représentés en Belgique en comparaison avec la France.
Merci beaucoup, Mohamed Fahmy.
Pas de souci.
Cette semaine, le podcast du soir s'intéresse à l'intelligence artificielle. Omniprésente dans les médias depuis fin 2022 et le lancement de ChatGPT, l'IA fascine autant qu'elle effraie. Mais concrètement, quel est son impact sur nos vies? Travail, santé ou encore enseignement, on verra comment l'intelligence artificielle peut intervenir dans ces domaines aujourd'hui, mais surtout demain. Comment contrôler ses usages et donc ses possibles dérives? Chaque jour, avec un journaliste de la rédaction, on décryptera l'influence de l'intelligence artificielle sur un aspect concret de votre quotidien. Aujourd'hui, Julien Cambier parle santé avec Anne-Sophie Lurquin du pôle Société.
Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Julien.
Chez nous, est-ce que l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans les soins de santé et de quelle manière?
Alors, on peut déjà dire que la télémédecine a propulsé l'usage des outils informatiques dans la pratique de tous les jours des gens comme vous et moi. Et cette télémédecine, justement, pour aller encore un peu plus loin et permettre de faire des prédiagnostics. Un médecin que j'ai interrogé, le docteur Le Chien, qui est ORL, m'a ainsi expliqué qu'il envoyait un pré-questionnaire à ses patients pour filtrer les urgences. Il y a une société qui s'appelle Bingley qui est spécialisée là-dedans et qui offre ces dispositifs aux hôpitaux. Ça, c'est vraiment pour le diagnostic, enfin pour le tout venant ou les consultations chez un spécialiste comme un ORL. Mais il y a aussi la recherche en laboratoire et plus spécifiquement dans l'anatomie pathologique. Donc, c'est l'analyse des tissus humains pour détecter éventuellement un cancer. Et tout ça, ce sont des images qui sont aussi numériques et qui permettent de scorer le nombre d'anomalies et puis de proposer un traitement en fonction de ce score, mais aussi de prédire, l'intelligence artificielle pourrait prédire la réponse à ces traitements proposés.
Dans le monde de travail, il existe une certaine forme de méfiance autour de l'IA. Lors de vos interviews, avez-vous retrouvé ce sentiment ou au contraire, le secteur de la santé est très enthousiaste vis-à-vis de l'intelligence artificielle?
Disons qu'en fait, on est face à une telle révolution qui va permettre d'améliorer les soins de santé qu'il y a des défis, mais ne pas saisir le train en marche serait la principale difficulté. Comme le résume très bien une note de synthèse de l'OCDE, donc l'Organisation pour la coopération et le développement économique, il y a des risques liés à l'IA, mais il y a aussi des opportunités majeures. Donc on va vers une médecine plus personnalisée et plusieurs médecins m'ont dit aussi que le gain de temps, qu'il s'agisse d'analyse ou qu'il s'agisse aussi d'organisation des ressources humaines, devrait permettre de passer plus de temps auprès du patient. Alors j'ai également parlé à Jean-Louis Vincent, qui est intensiviste aux hôpitaux universitaires de Bruxelles, donc à Erasme, et qui a écrit un livre, La transformation de la médecine par les technologies de l'information. Et il explique que ça pourrait aussi permettre de suivre un patient à distance sans le déranger. Donc à l'hôpital, par exemple, il y a actuellement des tours de garde qui sont effectués pour prendre toute une série de paramètres quand vous êtes hospitalisé. Et si vous dormez, bah, tant pis, on va vous réveiller et ça peut être inconfortable pour le patient. Là, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il pourrait y avoir des caméras et des capteurs en continu qui permettraient d'alerter en cas de besoin, mais sinon de laisser le patient se reposer complètement.
Donc l'IA est aussi utile pour les soins que pour la recherche? Est-ce qu'elle a déjà permis de faire des avancées majeures?
Évidemment, pour la recherche, il y a des applications qui sont nombreuses, notamment pour la détection des maladies rares ou pour une meilleure compréhension de ces maladies rares, dont 90% restent sans traitement. Donc, à partir du moment où on peut décoder le génome humain, on peut aussi comprendre les mutations et puis mettre la machine, tous des modèles prédictifs qui nous permettent donc de comprendre comment répondre à ces maladies. Et alors, il y a eu aussi une découverte d'une équipe de chercheurs américains, notamment de Harvard, qui ont identifié une classe de composés capables de tuer une bactérie résistante aux antibiotiques, le staphylocoque doré. Il faut savoir que l'antibiorésistance est un vrai problème de santé publique puisqu'elle tue encore et toujours des personnes. Donc, comme vous le savez, on prend trop d'antibiotiques et donc les bactéries ont développé des résistances. Ici, ces travaux sur base algorithmique ont permis d'identifier des composés actifs contre cette bactérie, et c'est une première depuis 60 ans.
Peut-on imaginer qu'un jour l'IA remplace les médecins dans certains domaines ?
Ben, espérons que non, mais en même temps, il y a déjà des robots qui permettent d'opérer à distance. Ça aussi, le professeur Vincent m'a dit, c'est toujours sous la supervision d'un humain. En fait, on va de plus en plus vers une médecine personnalisée. Donc, je ne crois pas qu'on se passera de l'humain. Je crois qu'au contraire, il va s'agir d'une collaboration entre l'homme et la machine et au service du patient. Et même plusieurs de mes interlocuteurs m'ont dit que ce serait au bénéfice du patient, puisque le gain de temps, que ce soit dans le workflow, la gestion du travail ou dans le temps même du médecin à analyser des résultats, il pourrait le mettre au service de la prévention, au service du suivi de la santé de son patient, bref, à être à ses côtés.
Et au niveau de la recherche sur l'utilisation de l'IA en santé, est-ce que la Belgique fait figure de bon élève ?
Oui, alors là, j'ai parlé au docteur Giovanni Briganti, qui est titulaire d'une chaire en intelligence artificielle et santé à l'Uliège et à l'UMONS. Et il me dit que la Belgique est absolument à la pointe. Il cite 700 chercheurs spécialisés dans l'intelligence artificielle en Belgique, dont environ un tiers rien qu'en santé. On a un écosystème qui est très, très riche, des programmes interuniversitaires, notamment le système MedResist qui va analyser des tissus cancéreux, et vraiment où l'idée c'est que la machine soit nourrie par des résultats en provenance des cliniques et que les médecins et les équipes médicales éduquent aussi la machine à mieux comprendre les résultats. Donc il y a vraiment cette idée d'interaction toujours entre l'humain et la machine.
Il existe des biens en médecine qui altèrent la qualité de soins pour certaines personnes. Avec l'IA, peut-on espérer s'en débarrasser ?
Là, vous parlez des biais liés à l'origine ethnique, notamment
oui.
En fait, oui et non. Je crois que déjà, au niveau de la recherche en elle-même, depuis une dizaine d'années, on fait attention à ce qu'il y ait une meilleure représentativité, en incluant des femmes, par exemple, mais aussi des groupes ethniques pour avoir des médicaments valables à l'échelle du monde, ce qui n'était pas le cas avant, c'est vrai. Maintenant, ici, le défi, plusieurs médecins m'ont dit aussi, le défi, c'est que les outils existants sont développés par des grandes firmes commerciales, donc il faudrait aussi que les universités ou des startups avec moins d'enjeux développent aussi leurs propres outils en open source, et surtout qu'on inclue aussi des populations originaires d'autres continents dans les données dont disposent ces outils d'intelligence artificielle. La présidente de l'Académie de médecine, Isabelle Salmon, qui est anatomopathologiste, anapathe, comme on dit en résumé, à Erasme, me prenait l'exemple des cancers gastriques. Elle disait, c'est dans les pays où on mange le plus épicé, donc l'Asie ou l'Afrique, en tout cas l'Asie, elle me disait qu'il y avait une prévalence de ce type de cancer. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des biais non plus liés à l'endroit où sont développés ces outils d'intelligence artificielle. Donc il faut qu'il y ait une représentativité des données existantes pour détecter au mieux. Mais je crois que c'est pour ça qu'il faut aussi une validation humaine. C'est une aide au diagnostic, mais qui ne dispense pas le médecin de, ça plusieurs m'ont dit aussi, de critiquer les résultats fournis par la machine et de les challenger.
Et les données concernant la santé sont évidemment très personnelles. Comment elles sont gérées par l'intelligence artificielle et par les universitaires, par exemple ? Est-ce que des limites éthiques ont été posées ?
Alors, donc là, j'ai parlé à Sébastien Jedogne, qui est chargé de cours à l'École Polytechnique de Louvain, à la chaire informatique pour les sciences de la vie, et il plaide pour un commun numérique disponible pour le plus grand nombre. Mais évidemment, pour répondre à votre question, ces données doivent être anonymisées, à la fois elles doivent nourrir l'algorithme, mais anonymisées au maximum, et donc c'est un vrai enjeu démocratique. Il me disait, un médecin même qui soumet un diagnostic à ChatGPT, il doit faire attention à la façon dont il le soumet, parce qu'on ne sait pas ce que ChatGPT va pouvoir faire évidemment de ces données, et ça peut être communiqué avec des serveurs à l'étranger et ça casse le RGPD. Donc il s'agit bien de données privées et il faut être attentif à ça. Mais théoriquement, les données telles qu'utilisées par les logiciels en santé, elles sont anonymisées.
Merci Anne-Sophie.
Avec plaisir, j'espère que ça vous a été utile.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Dans la perspective des élections, Le Soir organise des rencontres débat entre des présidents de parti et des abonnés. Si vous avez envie de participer, il suffit de vous inscrire sur le site bonsoir.lesoir.be. En vous inscrivant, vous aurez aussi la possibilité de poser votre question. Merci pour votre écoute et à demain.
podcast vous a été présenté en partenariat avec Digital Wallonia for AI.